Place Info.
Une heure de débat, de discussions animées autour de l'actualité. Bienvenue à tous donc dans les informés. Nos invités ce soir, Hélène Plichowski, journaliste politique, bonsoir.
Bonsoir.
Antoine Boulet de l'agence de communication Havas, en charge notamment de la communication de crise, bonsoir.
Bonsoir.
Vous vouliez ajouter quelque chose?
Pas du tout.
Eh bien très bien, on y va. Et Antoine Colonna, rédacteur en chef des pages internationales du magazine Valeurs Actuelles. Le premier sujet ce soir, bonsoir à vous. Bonsoir. Le premier sujet ce soir nous emmène d'ailleurs à l'étranger, puisque Donald Trump s'est exprimé après les deux fusillades mortelles de ce week-end aux États-Unis, parlant de crimes contre l'humanité. Pour la première fois, un peu plus tôt dans la journée, le président américain a même appelé à adopter une loi sur les armes à feu. Nous verrons quelle portée peuvent avoir ces propos, comment les États-Unis peuvent espérer un jour en finir avec ces tueries de masse. Nous parlerons aussi climat, juillet 2019, mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde, nous dit le service européen Copernicus. Va-t-on s'habituer à battre des records? Comment lutter contre ce réchauffement et plus globalement où en est la conscience écologique collective? Lui utilise 2 litres de kérosène par mètre parcouru, montré du doigt par les écologistes mais encensé par Emmanuel Macron, par l'armée et par beaucoup d'autres. Quel crédit donner à Frankie Zapata, l'homme volant qui a traversé la Manche hier sur son flyboard? Ce sera notre troisième sujet des informés. Mais d'abord, retour sur la terre ferme avec ce premier thème. Donc ce soir, ces deux fusillades ce week-end aux États-Unis, 31 morts au total à El Paso au Texas et à Dayton dans l'Ohio. À El Paso, le tireur arrêté par la police est clairement identifié comme un suprémaciste blanc en lutte contre, je cite, l'invasion hispanique. Donald Trump a pris la parole cet après-midi pour condamner le suprémacisme blanc. On va y revenir. Il a aussi pointé du doigt le rôle d'Internet.
La haine n'a pas sa place aux États-Unis. Nous devons reconnaître qu'Internet a ouvert ses portes à tous les radicalisés, à tous les dérangés et à tous les détraqués. Nous devons faire la lumière sur ce sombre Internet et arrêter les meurtriers avant qu'ils n'agissent.
Hélène Plichowski, c'est Internet le responsable de toutes ces tueries aux États-Unis?
Non, certes non. Encore qu'on puisse trouver effectivement certains faits qui pourraient corroborer cette explication de Donald Trump. Juste pour dire que j'ai entendu André Caspi sur vos ondes expliquer
tout à fait sur France Info
tout à l'heure. Expliquer tout à l'heure que c'était le port d'armes, l'autorisation du port d'armes aux États-Unis permettait à tous les jeunes à 20 ans, 25 ans, etc., de posséder une arme chez eux et que le suicide de ces jeunes garçons, qui est un mal très très important aux États-Unis, était dû effectivement aux armes, etc. Donc, de ce point de vue-là, Donald Trump a raison. Et que, en revanche, les fusillades, heureusement, sont plus rares, mais sont terribles malgré tout. En chiffres, d'après André Caspi, seraient moins importantes que ces suicides de jeunes garçons, qui s'inspireraient effectivement d'Internet, des vidéos effrayantes, des jeux terribles dont s'abreuvent les jeunes Américains. Et hélas aussi, nos enfants français, on est obligé de veiller pour les abriter contre cette invasion de scènes de violence sur Internet. Donc voilà, c'est une explication qui est, parcellaire, en fait, mais qui ne doit pas pour autant être négligée. Cela dit, ce qui s'est passé là, aux États-Unis, est évidemment terrifiant. Et ce qui est encore plus étonnant, ou presque, c'est le virage de Donald Trump, enfin le pseudo-virage de Donald Trump, tout d'un coup, après des tweets terribles qu'on lui connaît, tout d'un coup, il aurait un discours démocrate, mesuré, humaniste.
En partie,
c'est aussi surprenant.
On va y revenir. Il a pointé du doigt Internet. Il a aussi parlé d'idéalisation de la violence aux États-Unis pour la dénoncer, bien entendu. Antoine Boulet, quelle analyse vous en faites? Il y a cette idéalisation chez les jeunes de la violence qui serait à l'origine de ces tueries?
Alors, d'abord sur Donald Trump, sur l'analyse de ses propos et de ses positions. Effectivement, il y a eu deux positions dans le courant de la journée. L'une dans des tweets qui, effectivement, Hélène, était très équilibrée. Son adresse à la nation, il est un peu moins. Mais il fait du Donald Trump. Et je trouve ce qui est très frappant, c'est que dans cette occasion, comme dans d'autres d'ailleurs, on se rend compte que c'est un fin politique, plus fin que son caractère, son tempérament, le spectacle qu'il donne de sa propre personne.
La caricature
Cet homme est une caricature à certains égards. Mais sous la caricature, et c'est ce qui peut-être d'ailleurs dans tout le chemin faisant, y compris qu'il a mené au pouvoir, on n'avait pas repéré, il y a une très grande finesse tactique. Alors là, qu'est-ce qu'il fait, effectivement? D'abord, il reconnaît qu'il y a un problème avec le suprémacisme blanc, chose qu'il n'avait pas faite, il faut le souligner, à l'issue de l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Alors que c'était évident, c'était même revendiqué à ce moment-là par l'auteur de ces horribles crimes. Dans le même temps, effectivement, il blâme les médias.
Pourquoi il le fait à ce moment-là? C'est pour se dédouaner aussi des accusations qui viennent notamment de l'opposition démocrate sur le fait que lui-même aurait...
Je pense qu'il y a plusieurs... Écoutez, moi je ne suis pas dans sa tête. Ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, le racisme, et il y a eu d'autres éléments, d'autres accusations de racisme assez fortes, notamment par rapport aux Hispaniques, dans ces dernières semaines. Or, qu'on le veuille ou non, la société américaine est une société aujourd'hui composite. La part des Hispaniques, bien entendu, des Afro-Américains, évidemment, est très importante. Et donc, je crois qu'il fait, une fois encore, de la politique, il fait du marketing politique, et il se rend compte probablement que ça n'est pas une bonne chose si l'idée qu'il est raciste, et qu'il a notamment un racisme par rapport aux Hispaniques, devait s'installer dans l'opinion. Mais immédiatement, effectivement, il met en avant dans ses tweets de l'après-midi l'idée d'un background check, c'est-à-dire d'une vérification des antécédents de l'acquéreur d'une arme à feu dans une armurerie. D'autre part, il met aussi en avant l'idée qu'on puisse faire des arrestations préventives sur dénonciation en cas de comportement haineux ou autre, mais il le lie à la réforme migratoire. C'est-à-dire, ce qu'il a dit dans l'après-midi, c'était pas « je baisse la garde, j'affale les couleurs et ok, on régule les armes », c'est « on régule les armes, mes petits amis démocrates, mais seulement et seulement si vous me rejoignez sur ma politique migratoire ». Donc il était aussi toujours dans son fameux « the art of deal », l'art du compromis ou de... Bon. Et puis effectivement, dans son adresse à la Nation, il abandonne tout ça.
On va y revenir dans un instant, 20h10 sur France Info, un point sur l'actu avec Marc Potvin.
L'homme soupçonné d'avoir tué son ex-compagne à Marignane dans les Bouches-du-Rhône s'apprête à passer une deuxième nuit en cellule. Sa garde à vue est prolongée ce soir avant l'ouverture demain d'une information judiciaire. La victime, une trentenaire, était enceinte. C'est le 85e féminicide depuis le début de l'année en France, d'après le comptage de plusieurs collectifs. Un dernier hommage à Mamoudou Barry, aujourd'hui en Guinée. Environ 2000 personnes ont assisté à l'inhumation de cet enseignant-chercheur roué de coups dans la rue le mois dernier près de Rouen. Agression à caractère raciste. Mamoudou Barry a été inhumé dans son village natal en présence de plusieurs officiels guinéens. Aux États-Unis, le bilan encore revu à la hausse après la fusillade d'El Paso au Texas. La police compte désormais 22 morts après le décès de 2 blessés aujourd'hui. En tout, 31 personnes ont été tuées lors de 2 fusillades ce week-end dans le pays. La deuxième, c'était à Dayton, dans l'Ohio. L'ONG qui affrète le navire humanitaire Open Arms en appelle aux États européens. Elle leur demande de se mettre d'accord pour répartir entre les 121 migrants à bord du bateau des migrants secourus la semaine dernière en Méditerranée. Et puis en football, le défenseur le plus cher du monde s'appelle désormais Harry Maguire. Un montant de son transfert du club de Leicester à Manchester United, près de 90 millions d'euros selon des médias britanniques. Harry Maguire s'engage pour au moins 6 saisons.
France Info.
20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Et on continue avec Hélène Pilichowski, Antoine Boulet et Antoine Colonna a parlé de cette allocution tout à l'heure de Donald Trump après bien évidemment ces deux fusillades ce week-end aux États-Unis. Antoine Colonna ne vous a pas encore entendu dans les informés, cela va être votre tour à présent. On parlait avec Antoine Boulet à l'instant de cette double communication, si l'on peut dire, de Donald Trump, d'abord sur Twitter, ensuite dans cette adresse à la Nation où il n'est pas revenu justement sur cette inflexion, si l'on peut dire, sur la réglementation sur les armes à feu, que faut-il en penser?
Oui, Antoine Boulet a parfaitement de raison de dire que une fois encore, Donald Trump fait un compromis, enfin pas un compromis, mais une négociation avec son opposition. Il va tenter d'obtenir quelque chose. Il n'avancera pas sur ce dossier sans une contrepartie, ça c'est très clair. Le problème pour les États-Unis, il est très profond sur cette violence que l'on constate, puisque c'est presque 251 attentats de ce genre qui ont eu lieu aujourd'hui aux États-Unis.
Depuis
le début de l'année, avec évidemment des
pas forcément des morts à chaque fois, voilà, mais voilà, au moins mais des blessés.
Effectivement, c'est très profond. Et ça pose la question de savoir, comme Trump l'a dit en réalité, est-ce qu'il n'y a pas un problème de santé mentale, de santé publique? Et comment est-ce que ça se nourrit? Là, je rejoindrai Hélène Pilichowski pour dire que la culture américaine a fortement muté. Le cinéma américain est devenu de plus en plus violent et on voit que dans les statistiques, le nombre d'homicides que vous voyez dans les films, y compris les films à grand succès, augmente. Donc quand vous avez ce cocktail détonnant, et on citait aussi les jeux vidéo, ça produit un effet sur les personnes les plus fragiles et ça les amène à passer à l'acte. Et voilà, c'est la situation à laquelle on vient aujourd'hui, un petit peu comme l'affaire Weinstein. On se souvient, ce personnage flamboyant d'Hollywood qui montrait au cinéma ce qu'il faisait finalement dans sa vie privée. C'est un vrai problème.
Hélène Pilichowski, vous parliez oui tout à l'heure d'Internet, c'était notre premier thème dans ces informés. On parlait également là de la violence et des problèmes de santé mentale qu'a à chaque fois invoqué Donald Trump. Cette fois, il change donc un petit peu de discours en admettant qu'il y a quand même cette fois un vrai problème avec les armes à feu. Même si ça reste léger, il appelle en fait les démocrates et les républicains à agir. Il se dédouane aussi en quelque sorte.
Mais on l'a peut-être pas encore dit, mais il est en campagne électorale. Donc c'est très important pour lui. Il y a beaucoup de candidats à la primaire.
Et il a été élu aussi sur ces thèmes-là.
Voilà, absolument. Et dans le camp d'en face, c'est-à-dire chez les démocrates, il y a pas mal de candidats pour l'instant. Et Donald Trump va devenir, évidemment, il est déjà la cible préférée, privilégiée de ses adversaires politiques qui sont nombreux, certains talentueux. Donc il se dit, il va peut-être falloir qu'il infléchisse un tout petit peu son discours, parce que les démocrates, même si, effectivement, du côté des démocrates, c'est très très difficile de faire admettre effectivement des rationnements dans la vente d'armes aux États-Unis. C'est dans leur culture. Il y a ce fameux deuxième amendement de la Constitution qui date de, j'ai regardé ça, de 1791, je crois, c'est ça, et qui fait que les Américains, ils sont très attachés. Vous savez que quand un jeune garçon, j'ai vécu ça pas très loin de moi, un jeune garçon va demander la main d'une Américaine dans une famille là-bas, qu'est-ce que présente le papa de la jeune femme? C'est le nombre d'armes qu'il a chez lui et qui en fait finalement un fiancé idéal ou pas. Donc c'est quelque chose d'extrêmement profond. Il y a 85 Américains sur 100 qui ont une arme chez eux, alors qu'en France, je crois que c'est moins de 30, 28 armes, je crois. C'est déjà beaucoup. Je ne savais pas que c'était autant d'ailleurs en France.
Et qui se méfient d'ailleurs du gouvernement fédéral américain.
Donc Donald Trump, il n'a pas la volonté finalement de faire diminuer la facilité qu'ont les Américains, mais quand même, il sent qu'il se passe quelque chose et il sent qu'il faut qu'il montre au pays que c'est pas forcément un danger pour les États-Unis. Au contraire, d'ailleurs, c'était l'argument qu'il avait au départ et qui consistait à dire au Bataclan, il l'avait dit après les attentats du Bataclan, il avait dit, mais si ceux qui étaient là au spectacle avaient une arme sur eux, il y aurait peut-être eu moins de morts.
On l'a entendu encore là, oui.
On n'en est pas sûr du tout, mais c'est pour ça qu'il doit naviguer entre ces deux arguments.
Antoine Boulay, comment il fait justement Donald Trump pour à la fois changer le curseur sur son discours et garder son électorat très conservateur?
Il y a plusieurs choses qui me frappent et qui me choquent. Primo, je ne crois absolument pas qu'il ne fera évoluer en quoi que ce soit la réglementation sur les armes. C'est trop important pour lui. Il y a la National Rifle Association, l'association des détenteurs d'armes à feu.
Très puissant lobby aux États-Unis.
Ce premier amendement, et il faut le dire aux auditeurs, beaucoup le savent, mais c'est que, comme le disait Antoine Colonna, c'est une question politique. C'est-à-dire que c'est une défiance vis-à-vis de l'État central. Ce deuxième amendement, c'est le fait que les citoyens devaient se protéger des forces armées britanniques à l'époque. Et donc, il y a quelque chose de politique qui est vraiment enraciné au cœur de quelque chose de très libéral et où on doit se défendre soi-même. Je ne dis pas évidemment que c'est bien, et tout ça est évidemment instrumentalisé par un ensemble de forces politiques, de forces aussi industrielles, il ne faut pas se leurrer. Pour autant, moi, ça me choque qu'on blâme Internet. Ce qui est amusant, c'est que la droite, que ce soit aux États-Unis ou en France, quand il s'agit d'excuser des tueurs de masse, alors là, on trouve des circonstances atténuantes, mais quand il s'agit d'excuser des crimes commis par des personnes issues de l'immigration ou autre, là, les circonstances atténuantes, ça ne va pas. Et à gauche, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'immigré qui commet un crime, mais le pauvre, c'est très difficile pour lui, son enfance, que sais-je. Mais en revanche, le tueur de masse, c'est Internet. Bon. Donc, il faut insister sur la responsabilité individuelle et la présence des armes à feu, par ailleurs, au cœur du système américain, évidemment, doit être condamnée par toute personne de bon sens. Il y a un autre élément important, comme vous le disiez d'ailleurs, Hélène, et comme le disait André Caspi plus tôt sur l'antenne, c'est que ça touche, que ce soit les suicides ou les tueries de masse, des garçons, des hommes. Mm-hmm. Et donc, il y a une crise, évidemment, des représentations de la masculinité derrière ça. Et donc, nos sociétés occidentales doivent aussi s'interroger sur ces sujets. Et là, c'est très profond. Ça va au-delà, d'ailleurs, des armes à feu, parce que c'est un sujet...
Parce qu'on parlait justement de Donald Trump qui met en avant la santé mentale, mais qui, dans le même temps, ne fait pas grand chose non plus pour prendre en charge.
Qu'est-ce qui fait problème, c'est quoi cette crise de l'identité, en l'occurrence masculine?
Pour donner la parole à Antoine Colonna.
Je voulais juste dire que Barack Obama, qui est quand même a subi un échec grave sur ce sujet-là. C'était un grand humaniste talentueux et qui dans les...
On va revenir justement sur les...
Parler,
on viendra dans la prochaine partie.
Je Antoine Colonna. Je ne voulais pas qu'on oublie Barack Obama.
On y reviendra, Antoine Colonna.
Ça sera difficile de l'oublier, rassurez-vous.
Absolument, je suis d'accord avec vous.
Si vous regardez le problème culturel fondamental, en Suisse, oui. Tous les hommes ont une arme chez eux, ils sont quasiment tous militaires de réserve. Évidemment, il y a sans doute des contrôles psychologiques, mais vous n'avez pas de tuerie en Suisse. Donc c'est vraiment un problème spécifiquement américain. On peut ajouter encore sur ce dossier un peu psychologique et sociétal que, je crois, près d'un quart des hommes en âge de rentrer dans l'armée sont déclarés inaptes, notamment pour des problèmes psychiques.
Ce serait justement lié à la culture américaine que vous déviez sur le...
À une culture un peu plus contemporaine. Regardez, si on se souvient, les années 50, c'était John Wayne. John Wayne, c'était un cow-boy, il avait un code, il avait une éthique, il protégeait les faibles. Bon, là, il n'y a plus de code, il n'y a plus d'éthique. Là, le seul code, c'est de massacrer le plus de monde possible en le moins de temps possible, avec un maximum d'hémoglobine. Donc évidemment, c'est pas comme ça qu'on rend un peuple, une nation saine. Et malheureusement, Hollywood a une capacité de projection... et de contamination à travers le monde.
D'accord, mais la corrélation avec Hollywood, si une corrélation doit être faite, c'est par exemple avec l'explosion des inégalités de revenus et de patrimoine. La société américaine est une société bloquée, le rêve américain ne fonctionne plus. Donc à la racine de tout ça, il y a des racines sociales.
Il n'y a pas de
racines sociales. La violence cinématographique ou Internet n'est qu'une manifestation de cette violence sociale.
C'est une dérive et c'est un refuge, évidemment.
Le revenu des gens qui utilisent des armes à feu n'est pas du tout un facteur.
On va continuer ce débat dans un instant, si vous le voulez bien, 20h20. Un nouveau point sur l'actualité, toujours avec Marc Potvin.
Le bras de fer commercial entre la Chine et les États-Unis reprend de plus belle. Les entreprises chinoises n'achètent plus de produits agricoles américains. Pékin vient de le déclarer, 4 jours après la menace de Donald Trump d'imposer des droits de douane supplémentaires à la quasi-totalité des importations chinoises à compter du 1er septembre. Pour l'instant, rien n'indique un mobile raciste dans la fusillade de Dayton dans l'Ohio. C'est la police qui l'affirme. Cette piste est plus sérieuse. En revanche, dans l'enquête sur la deuxième fusillade aux États-Unis ce week-end, le tireur d'El Paso, Texas, est suspecté d'épouser les thèses des suprémacistes blancs. 31 personnes ont été tuées à Dayton et à El Paso. L'enfant qui est tombé du 10e étage d'un musée hier à Londres est français. La police ajoute ce soir qu'il visitait la capitale britannique avec sa famille. Ce garçon de 6 ans est gravement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Manifestement, il a été poussé d'une plateforme d'observation. Un suspect, âgé de 17 ans, est en garde à vue. Un collectif réunissant la CGT et des associations demande le confinement du chantier de Notre-Dame de Paris. Il craint toujours un risque de contamination au plomb. Plusieurs centaines de tonnes de cette matière toxique ont fondu le soir de l'incendie. Elles se sont répandues sous forme de particules. Le chantier de Notre-Dame de Paris doit reprendre progressivement la semaine prochaine. Et puis le mois dernier a été le plus chaud jamais mesuré dans le monde. C'est ce qu'assure Copernicus, le service européen sur le réchauffement climatique.
France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Et avec, avant le rappel de l'info, un débat entre Antoine Boulet et Antoine Colonna sur les origines sociales des détenteurs d'armes à feu aux États-Unis. Hélène Pilichowski, vous voulez faire l'arbitre peut-être dans cette discussion?
Moi, j'ai pas cette prétention, mais enfin, je veux bien m'immiscer occasionnellement.
Immiscez-vous.
Allez-y.
Non, mais la question pour relancer Hélène et demander votre avis, c'est que, bien sûr, qu'il n'y ait pas de corrélation entre le niveau de revenu d'une part et le passage à l'acte, c'est une chose assez claire. Pour autant, on a, et notamment dans le crime raciste et la montée en puissance du suprémacisme blanc, ce qu'on appelle parfois le syndrome du petit blanc, c'est-à-dire un certain nombre de parties de la population qui sentent un avenir bloqué, qui sentent la machine américaine. Il y a cette idée aux États-Unis très forte qui est que si vous jouez selon les règles, if you play by the book, eh bien vous pouvez réussir. Ce sentiment-là est aujourd'hui est perdu. Et donc ça crée chez les gens les plus faibles, avec le système des armes à feu, etc., des passages à l'acte qui sont plus violents. Voilà ce que je dis. Je dis que ce n'est pas Internet, il y a une situation beaucoup plus infrastructurelle, si j'ose dire.
Non, mais moi, je n'ai pas d'éléments statistiques là-dessus. On ne sait pas exactement. Je ne sais pas si les analyses ont été faites aux États-Unis de voir exactement quelles étaient les origines sociales et le statut social des personnes qui se livraient à de tels crimes, évidemment. Je pense que c'est essentiellement psychologique. C'est toujours pareil. Mais si vous êtes dans un milieu favorisé et que vous avez des difficultés psychologique, il est probable que si vous avez un certain niveau de culture, si vous avez des parents qui savent éduquer les enfants, ils sauront peut-être combler vos manques et vos carences autrement que par le défoulement dans les armes et surtout la projection de films terribles toute la journée, plusieurs heures par jour aux enfants. Donc ça c'est clair, hein, ça c'est évident. Et si vous êtes dans un milieu défavorisé, si vous avez du mal à effectivement à vous élever dans la société, vous n'avez plus beaucoup d'espoir, que vous n'avez pas beaucoup d'argent, que vous êtes finalement quelqu'un de malheureux, etc., vous en voulez à la terre entière, vous en voulez, etc., et vous en voulez à ceux qu'on dit qui vous gênent, à savoir les gens, les migrants, les gens qui seraient susceptibles d'encore aggraver la situation dans laquelle vous êtes déjà, en fait, c'est ça, bon, on peut dire ça.
Je voudrais qu'on fasse un saut dans le temps, on était en février 2018, la tuerie de Parkland en Floride, on était suivi une grande mobilisation, une grande marche à Washington, avec notamment Emma Gonzalez, je ne sais pas si vous vous rappelez, cette étudiante qui avait porté cet espoir de changer les choses, on l'avait vu en larmes lors d'un discours très poignant. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette jeunesse qui s'était mobilisée à ce moment-là? Est-ce qu'elle est toujours là, Antoine Colonna?
Écoutez, elle est toujours là, bien sûr. Elle est d'ailleurs de plus en plus présente dans une frange du Parti démocrate qui est plus ouverte aux minorités et qui va sans doute remplacer une bonne frange du Parti démocrate qui est un peu vieillot, on pense à Biden ou à des gens comme ça. C'est un peu aussi l'échec de la stratégie Obama, c'est l'échec du vieux Parti démocrate. C'est vraiment un changement de paradigme qui va donner des choses tout à fait nouvelles. Est-ce qu'elles seront meilleures ou moins bonnes, l'avenir le dira. Mais donc oui, ils sont présents. Mais c'est aussi pain béni pour Trump, parce que cette radicalisation d'une grande frange de l'électorat démocrate lui permet de remobiliser en fait tout le grand centre. Et il n'est pas du tout obligé de faire la même campagne que la précédente, c'est-à-dire une campagne où il fallait réveiller le vieux fond le plus républicain, donc l'intérieur du pays. Là, il peut tout à fait être un candidat qui va capitaliser non seulement sur sa base, mais aller plus loin vers les centristes.
Parce que cette radicalisation est due aux événements, à l'accroissement de ces crimes. Non, ou alors à la présence de Donald Trump, ses propos.
À la présence de Donald Trump. Ah oui, bien sûr. Oui. Parce qu'il est pris comme bouc émissaire. Oui. Et il y a toute une jeunesse, qui tombe un peu entre guillemets dans le panneau. Parce que il faut pas non plus penser que Trump, c'est Hitler. Enfin, c'est un peu ridicule. Et parfois, dans le débat.
Il est plus fort en parole qu'en acte.
Pour clore ce débat sur les États-Unis, je voudrais qu'on finisse par cette question. Comment on en sort? Comment on peut en sortir un jour de ces armes à feu, de ces tueries. On a évoqué tout à l'heure Hélène Pilichowski, Barack Obama, qui a clairement échoué à agir sur le sujet. Est-ce que le retour d'un démocrate, d'une majorité démocrate au Congrès pourra changer les choses, ou est-ce qu'il n'y a pas d'espoir là-dessus?
Pour moi, ce n'est pas du tout une question, entre guillemets, politique. C'est une question purement culturelle. Il faut changer le logiciel culturel, et ça se règle par l'éducation, ça se règle par la responsabilisation. Et même
par volonté politique.
Si, mais à la marge, parce que, vous savez, les politiciens, je pense que ça soit aux États-Unis ou peut-être en France et ailleurs, ils ont peut-être parfois un peu perdu leur leadership moral. Et donc, ce qui vient de la politique est parfois regardé avec suspicion par les gens. Donc, peut-être que les politiques peuvent avoir un rôle d'encouragement, mais surtout à la marge, avec modestie et discrétion, et pas en première ligne, parce que ça sera forcément leur opposition leur en voudra, enfin, ça tournera à la polémique. C'est quelque chose de plus fin, de plus subtil qu'il faut faire, mais de déterminé.
Moi, je pense qu'il ne faut pas dresser un tableau trop noir de la société américaine, parce que dans la culture américaine, s'il y a effectivement le port d'armes, si effectivement ils sont contaminés par la violence et tout ça, il faut savoir que les Américains gardent toujours le culte du succès, et du succès pour tous ceux qui le méritent, et en particulier les moins bien nantis socialement. Il y a encore ça quand même aux États-Unis, dans le sport, dans les associations sportives, etc. Tous les enfants qui manifestent un certain talent, un goût pour gagner quelque chose, il y a toujours ça qui est très présent aux États-Unis et qui peut quand même leur servir de faire valoir autrement que par les armes ou les assassinats, les crimes qu'ils peuvent commettre, quand même.
Antoine Boulet, sur ce sujet.
Je pense qu'il faut avoir peu d'espoir. Premièrement, Trump sera réélu selon toute probabilité.
Oui, mais on disait que ce n'était pas politique.
Deuxièmement, le Parti démocrate est très divisé. Ce n'est pas seulement le fait de Trump, c'est aussi le fait de vieux démons, de sujets non réglés depuis les Clinton et Obama, bien sûr. Mais simplement, cette radicalisation des gens comme Ocasio-Cortez, la sénatrice bien connue, ça ne fera, à la fois ça purifie le discours et le positionnement, mais ça ne crée pas de rassemblement possible. Et donc, de ce point de vue-là, Trump a réussi. Maintenant, il faut lutter contre le racisme. Après les attentats de 2001, Bush était allé dans une mosquée pour dire ce n'est pas l'islam qui nous a attaqués, c'est le terrorisme. Et je crois que les Américains doivent aussi lutter contre le racisme.
Les informés continuent dans un instant avec Hélène Pilichowski, Antoine Boulet et Antoine Colonna. On parlera climat et puis on reviendra aussi sur l'exploit hier de Frankie Zapata. A tout de suite.
Oud, gère tout dans la maison. Oud, gère tout ce que je veux.
Je veux Oud.
C'est décidé. À la rentrée, je fais confiance à Oud. Ranger, laver, repasser, faire les courses et le dîner, leurs professionnels s'occupent de tout. Grâce à O2, je respire et je bénéficie de 50% de crédit d'impôt. Vous aussi, faites confiance au numéro 1 en France des services à la personne. Rendez-vous sur O2.fr.
Et moi, je vois la vie
en mieux, O2.
Réagissez à l'actualité sur les réseaux sociaux avec le hashtag France Info. France Info Météo. Avec Gauthier, séjour, salon, chambre et dressing, le mobilier pour toute la maison à retrouver dans nos magasins et sur gauthier.fr.
Le temps avec vous, Sébastien Léas.
En cours de nuit, les orages d'Auvergne-Rhône-Alpes vont disparaître. En revanche, la perturbation qui circule sur le nord-ouest va se réactiver dès la fin de nuit. Et les pluies et averses seront parfois plus régulières et même orageuses demain entre le Sud-Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, l'Île-de-France et les frontières belges. Sur le reste du pays, la matinée sera globalement calme avec des éclaircies assez belles. Le soleil sera plus généreux autour de la Méditerranée alors qu'il faudra composer avec des grisailles matinales au sud de la Garonne et sur les plages du Golfe du Lion. L'après-midi, le ciel restera dégagé sur les régions méditerranéennes mais sera parfois laiteux dans le sud-ouest. En Auvergne-Rhône-Alpes, le temps va à nouveau tourner à l'orage et les averses seront localement fortes et accompagnées de grêle avec de violentes rafales de vent. Avant la fin de journée, ces averses orageuses vont également concerner le quart nord-est. Les températures seront comprises entre 21 et 36 degrés du nord-ouest au sud-est.
Sébastien Léas à Météo France. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur France Info, il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
L'info avec Claire Flochel.
Il n'a jamais fait aussi chaud qu'en juillet 2019. C'est le mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde, selon le programme européen Copernicus sur le changement climatique. La faute à la canicule, particulièrement Laurine Benjebria.
Deux canicules de courte durée, 3 à 5 jours, mais très intenses en Europe de l'Ouest, avec des records absolus de chaleur battus en France, en Allemagne ou encore aux Pays-Bas. Des températures au-dessus de la normale en Alaska, au Groenland et dans certaines régions de l'Antarctique. En France, entre le 22 et le 26 juillet, Copernicus a enregistré des températures allant jusqu'à 15 degrés de plus que les normales. Le précédent record datait de juillet 2016, battu le mois dernier de 0,04 degrés. Comme cet écart est vraiment faible, Copernicus se montre prudent et n'exclut pas que d'autres organismes de référence ne parviennent pas à la même conclusion. Cela dit, hélas, sans pincettes, Copernicus alerte, d'autres records sont à venir, avec la poursuite des émissions de gaz à effet de serre et l'impact sur l'augmentation mondiale des températures. Si nous ne faisons rien contre le changement climatique maintenant, ces événements météo extrêmes seront la partie émergée de l'iceberg. Iceberg qui fond rapidement, a ajouté le programme européen.
Selon l'administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis, sur les 10 années les plus chaudes jamais mesurées, 9 ont été enregistrées depuis 2000. Installer des poubelles de tri, sensibiliser les vacanciers et les commerçants près des plages, ne plus distribuer d'objets en plastique à usage unique, voici quelques engagements de la charte pour lutter contre les déchets plastiques sur les plages, présentée ce matin dans le Var par la secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poirson. L'objectif pour le gouvernement, c'est zéro plastique rejeté en mer d'ici 2025. Ambitieux quand on sait que la France a rejeté plus de 11 000 tonnes de plastique rien qu'en Méditerranée en 2016, selon un rapport de WWF. Le père des deux enfants de 5 et 7 ans retrouvés morts samedi soir à Beaucaire dans le Gard, mis en examen aujourd'hui pour assassinat. Il avait été découvert à côté d'eux, grièvement blessé. L'homme âgé de 47 ans aurait tué ses enfants avant de tenter de se suicider. Les enquêteurs privilégient la piste de la préméditation, annonce le procureur de la République de Nîmes. anonyme. Une fillette de 22 mois gravement brûlée à Pornic en Loire-Atlantique. Les faits se sont déroulés dans un restaurant jeudi. Un verre qui contenait du détergent lui a été servi par erreur à la place de son jus de fruits. La petite fille est maintenue dans un état de coma artificiel. Elle risque de perdre son œsophage. Les parents ont porté plainte. Une enquête est ouverte par le parquet de Nantes. L'armée nationale libyenne du maréchal Haftar confirme avoir mené la frappe aérienne qui a tué au moins 42 personnes à Mourzouk dans le sud du pays. Mais elle assure qu'elle n'a pas visé la population. La Libye, que de nombreux civils tentent de fuir, c'est pour leur venir en aide que les ONG SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières ont fait affréter un nouveau bateau. L'Ocean Viking a quitté Marseille hier soir et devrait rejoindre la Méditerranée centrale dans les jours qui viennent. Il est 20h33, les informés, ça continue tout de suite avec vous Victor Marty.
Merci Claire Flochet, à tout à l'heure.
20h21h, les informés, Victor Matet.
Et nous sommes toujours avec la journaliste politique Hélène Pilichowski, Antoine Boulet de l'agence de communication Havas et Antoine Colonna des pages internationales du magazine Valeurs Actuelles. Notre deuxième débat ce soir dans les informés devrait faire grimper la température dans le studio à l'image de ce que l'on a vu il y a maintenant 10 jours, des températures à plus de 40 degrés un peu partout en France, sauf dans l'ouest de la Bretagne. Une deuxième vague de canicule en seulement un mois. Résultat, juillet est officiellement le mois le plus chaud jamais enregistré, pas seulement en France, mais dans le monde. Jean Jouzel était cet après-midi l'invité de France Info.
On voit bien que, malheureusement, je dirais, les projections que nous avions faites il y a une trentaine d'années se réalisent, aussi bien en termes de vitesse, de réchauffement climatique, de, disons, cette perception d'une intensification des éléments extrêmes, par exemple, c'est vrai pour les canicules plus précoces, plus fréquentes et plus intenses. Ça a été le cas en France et c'est le cas, bien sûr, dans d'autres régions du monde.
Le climatologue Jean Jouzel, Hélène Pilichowski, qu'est-ce que ça vous inspire, ce mois de juillet 2019 qui bat tous les records?
C'est-à-dire que ça m'inspire ce que tout le monde peut comprendre. C'est-à-dire que depuis le temps qu'on lance des alertes, depuis le temps qu'il y a des cris d'alarme qui sont proférés, et Jean Jouzel en particulier, bon, pour nous expliquer qu'on est arrivé à un niveau extrêmement dangereux du réchauffement de la planète. Donc là, on a eu, on peut dire, une démonstration in situ. Tout le monde a pu constater à un endroit ou à un autre que ça y est, effectivement, il faisait beaucoup plus chaud qu'en moyenne. Alors, il y a des gens toujours pareils, les sceptiques, bien sûr, qui vont vous dire « Ah, mais il y a eu telle année aussi un pic de chaleur. » Bon. Tout ça, c'est vrai, mais partiellement, parce que la tendance, ce qui compte, c'est la tendance, c'est pas le fait qu'il y ait eu une journée de chaleur il y a 30 ou 40 ans, non, c'est la tendance générale, et on a bien compris que cette fois-ci, on était dedans, avec toutes les conséquences, parce qu'il y a de nombreuses conséquences, c'est pas seulement le fait d'avoir chaud, hein, c'est les glaciers qui fondent, etc., tout ce qui va, l'eau qui va manquer, enfin, il y a énormément de conséquences, et ça, c'est bien qu'on puisse en prendre conscience, parce qu'on est tous touchés, et ça, je trouve que c'est plutôt... on va pas dire une bonne chose, mais c'est bien, on a une preuve matérielle. Et vous savez que les gens croient parfois uniquement quand on peut toucher les choses.
On a des rapports alarmants du GIEC, de nombreux experts, voilà, des climatologues, exactement. On a l'impression au final, Antoine Colonna, que l'on repousse toujours le moment pour prendre des solutions radicales ou au moins efficaces.
Oui, parce que je crois que le titre du ministère en France, c'est le ministère de la Transition.
Transition écologique.
Voilà, donc c'est pas un ministère de la révolution écologique. Donc effectivement, on peut prendre un certain nombre de mesures, mais il faut les faire en fonction de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que vous pouvez pas tout d'un coup, on a une situation économique qui n'est pas extraordinaire. Si vous fermez certaines activités, certaines industries, vous allez vous retrouver avec 2000, 3000, 10 000 personnes en plus dans la rue. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc effectivement, il faut avoir conscience de la situation.
On peut faire que des choses qui amèneraient à des,
non, certainement
à des
pas,
conséquences certainement pas. Néfastes au niveau économique.
Pour poser le cadre d'une manière le plus objective possible. Et puis après, c'est vrai qu'on peut penser qu'il y aurait des choses plus rapides à faire, peut-être plus contraignantes. Voilà, c'est un vaste programme.
Antoine Boulet.
Mais moi, je voudrais inviter nos auditeurs à lire, pour ceux qui pratiquent un peu l'anglais, The Economist de cette semaine, le grand magazine anglo-saxon qui titre sur le sujet des forêts amazoniennes, des forêts tropicales amazoniennes. Parce que si on regarde, si les forêts, alors là, il n'y a pas que les forêts amazoniennes, étaient un État, elles seraient le troisième contributeur après les États-Unis et la Chine aux émissions de gaz à effet de serre. Parce que quand on déforeste, qu'est-ce qui se passe? Soit on brûle, évidemment on dégage du carbone, soit on laisse un certain nombre de bois en tas pourrir, et là aussi cette putréfaction dégage du carbone, et d'autre part, évidemment, vraiment la capacité des masses vertes, des feuillages, à absorber le CO2 et à les stocker dans du bois, dans les parties ligneuses, comme on dit, eh bien, diminue. Et de ce point de vue-là, ce qui se passe en Amazonie est extrêmement grave. C'est 40% de la forêt tropicale au total. Depuis Jair Bolsonaro, depuis l'élection de Jair Bolsonaro, dites-vous bien que deux fois l'équivalent de la surface de Manhattan sont déforestés chaque semaine. Donc, on est dans une situation très grave. Et c'est ce que m'inspire cette nouvelle du mois de juillet le plus chaud. C'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir des décisions et des mesures extrêmement locales, parce que ça se joue sur des petits gestes. Et en même temps, c'est au niveau international et mondial que ça se joue.
Hélène Pilichowski, on parle. Allez-y, si vous vouliez réagir à ce que disait Antoine Boulet.
Non, mais je trouve que c'est bien ce qui vient d'être dit, parce que effectivement, on croit toujours, on raisonne toujours à l'intérieur de l'Hexagone en France. On dit toujours, ah, vous avez fait ci, vous avez fait ça, à tel endroit, il y a tel truc, il y a une centrale nucléaire de trop ici, etc. Tout ça. Alors qu'effectivement, l'enjeu, il est planétaire, il faut que tout le monde se le mette dans la tête. Alors, c'est peut-être pas forcément une bonne idée de parler de la forêt amazonienne si on veut alerter, si on veut motiver l'ensemble des Français, parce qu'ils vont dire, c'est bien loin de moi, ça m'est complètement égal ce qui se passe en Amazonie, évidemment. Mais bon, pour ceux qui peuvent, qui s'y intéressent un peu plus, je pense que c'est une bonne chose de le dire. Et on répète pas assez que c'est une œuvre de la planète entière. Tous les gens qui habitent sur la planète sont responsables. On a trop tendance à s'enfermer à l'intérieur de ses frontières.
Ce que je voulais vous demander aussi, c'est qu'on parle aussi beaucoup de la responsabilité personnelle de chacun, le citoyen qui doit devenir écolo, avoir une attitude verte au quotidien. Ça, c'est une solution, mais qui...
Moi, je trouve que, bien sûr, c'est important, mais c'est extrêmement difficile à présenter. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont douées pour ça, parce qu'il faut à la fois trouver les arguments qui permettent aux personnes d'être motivées sans avoir l'aide d'être trop répressif. Et tout le monde a l'esprit, quand on habite Paris, n'est-ce pas, que notre chère maire, elle a vécu,
si vous voulez,
Anne Hidalgo. Elle a la lutte contre la pollution à Paris comme quelque chose qui était... Il fallait punir les automobilistes. Et tout le monde n'a retenu que ça sans aucune autre explication, sans aucune autre solution. Rien n'a été avancé, rien n'a été expliqué. Les automobilistes sont des criminels, point final. Donc ça, et à ce niveau-là, si on parle de Brune Poirson après, on va voir qu'il y a une autre méthode qui fera peut-être florès.
Eh bien, on va en parler justement dans un instant, après un nouveau point sur l'actualité, 20h40, avec Marc Potvin.
Après les deux fusillades ce week-end aux États-Unis, le président mexicain renvoie dos à dos les deux grands partis du pays. Pour lui, démocrates et républicains, on peut prêter attention au contrôle des armes. Au moins 8 des 31 morts dans ces fusillades sont des ressortissants mexicains. Donald Trump s'est exprimé cet après-midi, mais il n'a rien dit sur la lutte contre les armes à feu. En Guinée, environ 2000 personnes ont assisté aujourd'hui à l'inhumation de Mamoudou Barry, cet ancien chercheur roué de coups dans la rue le mois dernier près de Rouen. Agression à caractère raciste. Mamoudou Barry a été inhumé dans son village natal en présence de plusieurs officiels guinéens. Garde à vue prolongée ce soir pour l'homme soupçonné d'avoir tué son ex-compagne hier à Marignane dans les Bouches-du-Rhône. Le procureur d'Aix-en-Provence ajoute qu'une information judiciaire sera ouverte demain. Cet homme reprochait à son ex-compagne qui était enceinte d'avoir refait sa vie. C'est le 85e féminicide depuis le début de l'année en France d'après le comptage de plusieurs collectifs. Le ministère de la Justice réclame la mutation et la rétrogradation du procureur de Nice. Elle devrait être entérinée début septembre par le Conseil supérieur de la magistrature. Jean-Michel Prêtre paye sa communication ratée sur l'affaire Geneviève Leguet, cette militante de 73 ans, gravement blessée lors d'une manifestation de Gilets jaunes en mars. Il avait d'abord dédouané les forces de l'ordre avant de reconnaître leur responsabilité. Et puis une nouvelle recrue pour l'Olympique de Marseille, l'attaquant argentin Dario Benedetto qui arrive du club mythique de Boca Juniors. Il a signé son contrat aujourd'hui.
France Info.
20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Et Hélène Pilichowski a assuré le teasing avant la pause. Donc, on va parler à présent de Brune Poirson, qui était tout à l'heure dans le Var, la secrétaire d'État à la transition écologique, qui est venue présenter une charte de lutte contre les déchets plastiques sur les plages. On l'écoute.
Si nous continuons comme ça, d'ici 2050, il y aura autant de poissons que de plastique dans l'océan. Qui dit plastique dans la mer et dans l'océan, dit aussi plastique dans nos estomacs, à nous, puisque les poissons finissent par ingérer du plastique, et ensuite c'est nous qui ingérons les poissons. C'est donc dramatique et pour la santé humaine, et pour la planète, pour la biodiversité, pour la nature.
La secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, avec là exactement finalement un exemple d'action à la fois des citoyens qui doivent faire attention et de tentative de mettre en place des choses un petit peu plus globales en mettant aussi les commerçants dans la boucle. Antoine Boulet, il faut justement arriver à trouver l'équilibre.
Oui, non mais cet équilibre est très important et on est assez loin à vrai dire. Il faut bien distinguer deux choses très différentes. Il y a le réchauffement dont on parlait tout à l'heure, qui est une chose et qui traite principalement l'industrie, l'habitat et l'automobile, et la biodiversité. Sur le plastique, on est plutôt sur la biodiversité.
On est passé sur la sensibilisation à l'écologie de manière générale.
Bien sûr, mais ce dont on se rend compte, c'est que la sensibilité de l'opinion au sujet de biodiversité est elle aussi de plus en plus importante, sans doute pour deux raisons. Il y a une première, c'est que la biodiversité contribue quand même au fonctionnement général de l'écosystème, évidemment. On pense aux insectes pollinisateurs, entre autres. Et la deuxième raison, c'est que les espèces, autant moi je suis pas du tout animaliste, et un individu animal, pour moi, ne doit ni être torturé, mais ni être fétichisé, autant les espèces font partie du patrimoine commun de l'humanité. Et une espèce qui disparaît, évidemment, c'est une tragédie. Et de ce point, sans compter l'impact, enfin, dernier point, sanitaire. Moi, je voudrais envoyer les auditeurs au site de France Bleu Pays Basque, parce que vous avez vu la feria, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a un blogueur qui s'appelle Monsieur Dizdar qui a fait une vidéo formidable sur les déchets laissés par les festoyeurs, je ne sais pas comment on les appelle.
Les fêtards.
Non, mais ils ont un nom, les festeires. Local. Pardon pour mes amis basques, je ne suis pas du tout basque, je ne connais pas. Mais bref, on voit des images épouvantables de gens qui laissent toutes sortes de déchets en verre, en plastique, en papier. C'est insupportable. Il faut qu'on se discipline les uns et les autres et inciter les commerçants à ne pas vendre de paille. Pourquoi a-t-on besoin d'une paille, franchement, aujourd'hui? On se demande.
Mais justement, Hélène Pilichowski, vous parliez alors pour Paris et la pollution automobile d'une politique que vous jugez punitive de la part d'Anne Hidalgo. Mais il faut aussi contraindre quelque part nous, les citoyens, à bannir certaines choses, avoir d'autres comportements. Si on ne fait que nous inciter ou nous demander d'agir.
Pour accepter, c'est comme le consentement à l'impôt. Si on vous explique pourquoi vous payez des impôts et quelle en est la destinée, c'est beaucoup plus acceptable, bien évidemment. Vous pouvez même avoir un certain enthousiasme, enfin pas pour payer des impôts quand même, mais en revanche pour lutter contre le réchauffement climatique, effectivement, en vous disant, je vais faire du bien, je vais apporter mon écho au sauvetage de la planète. Donc c'est pour ça que je pense que l'argumentation, il faut faire appel à la raison des gens et non pas à la contrainte.
Il y a ça, il n'y a pas que ça. Ce que vous dites sur Anne Hidalgo, elle a ciblé des pratiques totalement individuelles. Ce qui est intéressant dans la démarche de Brune Poirson, c'est d'essayer d'associer différentes parties prenantes, dont les entreprises. Je donne un seul exemple. Griveaux, qu'on critique beaucoup, mais qui en fait, pour
candidat
moi,
à la mairie de Paris.
Voilà, candidat à la mairie de Paris, qui fait une campagne extrêmement intéressante sur le fond, même s'il a peut-être en termes de tempérament ou de communication, mais sa proposition de bannir les bus de tourisme en centre-ville, je veux dire, les dégâts de ce qu'on appelle le surtourisme, c'est essentiel. Il faut en discuter avec les fédérations, évidemment, de transporteurs pour trouver des solutions, des parkings relais, etc. Mais c'est clair que les solutions ne peuvent pas être simplement un pouvoir public, qu'il soit local ou national, qui régule les comportements individuels. Il faut embarquer tout le monde, y compris les entreprises, les associations.
Ça, c'est une mesure radicale, ça. Parce que quand vous allez mettre les touristes dans le RER ou le bus parisien, il n'y aura plus d'avions pour venir à Paris. Ça va être remarquable. C'est très, très bonne idée.
Il y aura d'autres solutions.
Là, c'est ce que vous disiez sur les conséquences économiques aussi, Antoine Colonna.
Ça, c'est pour plaisanter, mais pas que, en fait. C'est une boutade, mais c'est vrai qu'il y a tout ce problème
c'est
des conséquences
des actes. Surprenant de voir les bus de touristes qui sont stationnés près sur les quais, près des grands musées, tout ça, ce qui est un peu normal, mais dont les moteurs tournent à fond, parce qu'il faut bien que le bus reste frais pour que ces touristes ne montent pas dans une fournaise.
Et puis la résistance des populations aux surtouristes, que ce soit Paris ou Venise, même combat, on ne peut pas accepter pour des raisons économiques d'avoir du diesel qui fume en permanence dans nos villes.
Absolument.
Et sur les solutions plus globales, c'était là aussi que je voulais vous emmener, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, ou qu'est-ce que les gouvernements
Effectivement, la France n'est pas toute seule,
il y a le monde entier, il y a la Chine, les États-Unis,
vous avez la grande distribution qui surplastique, qui surcartonne le moindre petit élément. Heureusement, de plus en plus, on voit dans les supermarchés qu'on peut se servir.
Du plastique,
avec des pompes, on peut venir avec des sacs en papier, etc. Évidemment, mais ça, c'est sans doute au gouvernement, pour le coup, de faire pression. Parce qu'ils sont tout à fait
au lieu de faire. Effectivement, il faut qu'il y ait des incitations, effectivement, pour les grandes surfaces, la grande distribution en France, les grandes centrales d'achat, etc. Quand vous achetez, parfois, vous achetez deux avocats, ils sont dans une barquette, la barquette elle-même est dans un, je sais pas quoi, là,
un composé, un cellophane,
c'est quoi, voilà, plus le plastique par-dessus, plus de la ficelle autour, etc. Tout ça pour acheter deux avocats. Et ça, ça a même tendance plutôt à se développer plutôt que.
Non, globalement, la part de l'emballage a réduit, et là, pour le coup, je ne serais pas d'accord avec Antoine Colonna, les grandes surfaces ou les producteurs d'une manière générale qui se mobilisent spontanément sur ces sujets gagnent des parts de marché. Et ça,
Leclerc l'a fait,
Carrefour l'a fait avec la transition alimentaire. Oui. Aujourd'hui, ça devient un déterminant de l'achat. Ce sont ce qu'on appelle les consomme-acteurs, avec un jeu de mots un peu nul, mais enfin c'est comme ça. On comprend bien l'idée. Je revenais sur mon histoire de Brésil et de forêt amazonienne. Uh-huh. Les groupes agroalimentaires qui utilisent du soja issu de zones déforestées dans la période actuelle, eh bien, on doit le faire savoir et les consommateurs doivent demander à ce que ces produits ne soient pas distribués.
Ce qui prouve bien que le consommateur doit de plus en plus lire l'étiquette attentivement avant d'acheter quoi que ce soit, et notamment ceux qui s'opposent au CETA. Il ne faut pas hésiter à bien lire l'étiquette pour ne pas avoir du bœuf curieux.
Cela dit, il ne faut pas demander effectivement aux centrales d'achat, aux industries, etc. de faire des efforts et de laisser l'incivisme se développer, comme c'est le cas aujourd'hui en France, où tout le monde jette, où on sort du McDo, on balance son verre en je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que c'est que ces matériaux composés, là, les verres tout le monde connaît les verres des McDo, etc. Et que les jeunes n'ont plus aucune notion de ce que ça peut vouloir dire, de faire attention, d'aller mettre dans une poubelle qui est posée à cet effet, que personne.
Parce que ça, c'est les jeunes qui posent le plus de problèmes par rapport à
l'écologie. Moi, je trouve que plutôt que de donner des amendes aux gestes.
Remettez-vous devant le micro, Hélène.
Il y avait eu 700 amendes depuis la loi de Marlène Schiappa pour les gestes qui étaient déplacés à l'égard des femmes dans la rue. Moi, je trouve que.
Mais quel est le rapport? Enfin, alors, ça n'a aucun rapport.
On part sur un autre sujet.
Non, parce que
cette équivalence.
Non, mais c'est pas une équivalence.
Ça me choque.
Non,
les gens qui suffisamment sérieux pour
plutôt
pas dire n'importe
que de
quoi.
Mettre des amendes plutôt que de mettre des amendes pour des actes de déplacés à l'égard des femmes, un clin d'œil ou je sais pas quoi, voilà. Et ben les actes d'incivisme ne sont pas
il y a une femme qui est morte, la 85e femme qui est morte dans l'année sous les coups de son mari.
Non, les féminicides, c'est autre chose, ça n'a rien à voir.
Oui, mais enfin si, ça a à voir, parce que bien sûr que si.
Non, les problèmes conjugaux, ça n'a rien à voir avec le fait de
marcher. Ça commence par les comportements.
Non, ça n'a rien à voir. Il y a confusion.
On dévie quelque peu de notre débat. Hélène Pilichowski, Antoine Boulet, Antoine Colonna, on vous retrouve dans un instant pour la dernière partie déjà. Désinformé, 20h50 sur France Info, Marc Potvin.
La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis franchit un nouveau cap. Les entreprises chinoises ont cessé d'acheter des produits agricoles américains, Pékin l'annonce ce soir, 4 jours après la menace de Donald Trump d'imposer des droits de douane supplémentaires à la quasi-totalité des importations chinoises à compter du 1er septembre. Les 2 fusillades ce week-end aux États-Unis ont fait 31 morts. Dernier bilan après le décès aujourd'hui de 2 des blessés à El Paso au Texas. L'autre tuerie a eu lieu à Dayton dans l'Ohio. C'est un petit Français qui a chuté du 10e étage d'un musée hier à Londres. La police ajoute ce soir qu'il visitait la capitale britannique avec sa famille. Ce garçon de 6 ans est gravement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Manifestement, il a été poussé. Un suspect, âgé de 17 ans, est en garde à vue. Les sauveteurs de la SNSM prouvent une nouvelle fois leur valeur. Ils ont sauvé 2 pêcheurs en perdition ce matin près de Belle-Île, dans le Morbihan. Leur chalutier a coulé pour une raison encore inconnue. Les sauveteurs de la SNSM ont été appuyés par un avion et un hélicoptère de la Marine nationale. Et puis un record battu le mois dernier, mais ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Juillet 2019 a été le mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde. C'est ce qu'assure Copernicus, le service européen sur le changement climatique.
France Info.
20h, 21h, les informés. Victor Matet.
La dernière partie des informés. On évoquait tout à l'heure la mobilisation des jeunes aux États-Unis contre les armes à feu. Cette fois, on parle climat. Et je voudrais vous entendre d'un mot sur la mobilisation, cette fois, de la jeunesse, notamment Greta Thunberg, qu'on a vu récemment encore à l'Assemblée nationale. Antoine Boulet, je vous vois lever les yeux au ciel.
Moi, pas de jeunisme. Ce sont des sujets. On a Jean Jouzel. Il n'a pas 15 ans. Je crois que ce qui sauvera la planète des conséquences du réchauffement climatique, c'est certainement la science et le travail. Donc moi, je ne suis pas du tout sensible à ça. Voilà, je trouve que c'est très grave. L'engagement des jeunes, c'est toujours quelque chose de beau, mais de là en faire un fétichisme, là aussi, tout ce qui est excessif est dérisoire.
Antoine Colonna.
Moi, je ne peux qu'abonder dans le sens d'Antoine Boulet. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et puis, je peux rajouter un petit coup de pied de l'âne. C'est vrai, on en a déjà parlé à cette antenne. La recevoir à l'Assemblée nationale dans la même séquence que le CETA, c'était un paradoxe tout à fait amusant.
Ou elle ne s'est pas privée d'ailleurs de faire la leçon aux députés. Allez, le troisième et dernier sujet ce soir des informés, l'exploit hier d'un certain Frankie Zapata et de son flyboard avec cette traversée réussie de la Manche en volant sur sa planche après un deuxième essai. L'ancien champion de jet ski devenu inventeur, fier de sa performance.
Généralement, on se fixe des objectifs de plus en plus fous. Puis à un moment donné, on s'est dit, mais en fait, on est fou, quoi. Ça passera pas. Puis quand ça passe, voilà, c'est juste la magie du moment. Après, historique ou pas, ça c'est pas moi qui décide. Et on verra si ça dure ou pas dans le temps. Mais honnêtement, c'est pas le plus grave. Ce qui est important, c'est ce qui reste dans nos cœurs, quoi. C'est voilà, on l'a fait, quoi.
On l'a fait, dit Frankie Zapata. Historique ou pas. Alors il se pose la question, Hélène Pilichowski. Traversée historique, exploit historique.
Alors écoutez, moi je ne sais pas si je suis qualifié pour vous répondre, c'est historique. Bah, disons que c'est une avancée quand même.
C'est une
invention au vrai sens du terme, donc à ce niveau-là, et c'est un exploit physique d'après ce que j'ai pu comprendre, parce que par-delà ses qualités technologiques, cet homme a une constitution physique, un entraînement qui est nécessaire et que du coup son engin miraculeux ne va pas être à la portée de tout le monde dans les prochaines années quand même, je ne crois pas.
Ouais, n'importe qui ne peut pas a priori. Voilà, le piloter, il faut un petit peu...
C'est destiné aux forces spéciales, d'ailleurs.
Tout le monde ne peut pas piloter un engin miraculeux.
Effectivement. Antoine Colonna, ça fait partie un peu de l'imaginaire de la science-fiction. Elles sont très impressionnantes, comme ces images.
C'est magnifique, moi je trouve ça magnifique.
C'est l'homme qui vient de fermer le tunnel sous la Manche, c'est fantastique. On n'aura plus besoin d'Eurostar pour aller à Londres grâce à son invention. Ça va mettre encore un peu de temps. Et c'est vrai, là, depuis tout à l'heure, l'actualité nous y oblige, mais on parlait de chose un peu sombre et un peu déprimante. C'est fantastique de voir cette capacité inventée. Et si vous regardez le profil de Monsieur Zapata, c'est quelqu'un effectivement qui est un autodidacte. Son entreprise, une petite entreprise, sa femme, son fils, qui suivent absolument tout le parcours, qui était sur le bateau.
Il l'a dit lui-même, daltonien, dyslexique, mauvais élève.
Pour ravitailler en vol en plein milieu de la Manche. Donc oui, c'est fort sympathique.
Antoine Boulet.
Écoutez, moi, au risque de doucher votre enthousiasme.
Merci.
Je trouve que c'est un peu une distraction. C'est un peu le concours Lépine. D'abord, il y a plein d'outils, d'engins comparables. Alors, il y a au Royaume-Uni, d'ailleurs piloté par la Navy, le programme de recherche piloté par la Navy, un autre projet d'homme fusée, comme ils disent, avec un certain Richard Brownings. Moi, ce qui me frappe,
c'est... Le système est un peu différent.
Oui, le système est différent. Il y a clairement un sujet d'intervention qui correspond d'ailleurs également à l'évolution des théâtres de guerre, c'est-à-dire qu'on est évidemment dans des cas de guérilla, etc., c'est tout à fait, ou de piraterie, ce sont des outils adaptés. Quel est l'avenir de tel ou tel de ces procédés, je ne sais pas le dire, mais ce qui me frappe, c'est l'engouement, c'est le fait d'en avoir fait la démonstration le 14 juillet. L'année précédente, on avait eu la garde républicaine qui avait joué un air de rock. Comme vous le disiez, pour introduire...
vous le mettez sur le même plan.
Un peu, c'est-à-dire que c'est le spectacle. On est dans le domaine du spectacle. Moi, j'aime pas trop le spectacle.
Vous voyez, vous n'aimiez pas beaucoup les confusions, vous avez dit tout à l'heure.
J'aime pas trop le spectacle.
Petite pique de
l'armée. J'aime le spectacle, mais pas en politique.
Eh bien, cher Thomas, j'aime bien la culture. Et je trouve que culturellement, c'est splendide.
Hélène Pilichowski.
Il a reçu quand même un million de l'armée, parce que ça, il peut y avoir des débouchés, effectivement. Bon, ça coûtera très cher.
On espère bien que si ça nous coûte ce prix-là, c'est qu'il y a des débouchés.
Quand il faudra envoyer pour des missions extrêmement sophistiquées, parfois des élites, des militaires qui sont l'élite du pays, bah, pourquoi pas? On peut dire, bon, c'est quelqu'un qui a apporté quelque chose.
Et en plus, pour une fois, les Américains n'ont pas réussi à nous shipper.
Alors,
ça, cocorico, quand même.
Ça nous transporte un peu dans le futur, quand même, ces images, non? Vous ne trouvez pas, Antoine Boulet? J'essaye oui, un petit enfin, peu de voilà de vous faire réagir positivement.
D'un côté James Bond,
d'un côté James Bond, bien entendu, oui. Bien entendu que ça fait un peu rêver, etc. Star Wars. Mais moi, ce qui me frappe plus globalement, c'est que la production cinématographique de fiction inspire de plus en plus, que ce soit les drones, les robots policiers, etc. Et que il faut bien voir que on ne peut pas d'un côté aux minutes paires, aux informés, se méfier du CETA, de l'avancée du progrès, etc. Et les minutes impaires dire ah c'est formidable.
Oh, je viens d'avoir un raccourci terrible entre CETA et progrès. Voilà. Je suis seul ou
moi je trouve que moi ça m'enthousiasme que moyennement. Je crois que nos forces armées, notamment en France, sont dans de grandes difficultés, y compris dans un grand malaise social et humain chez les gendarmes et ailleurs. Elles sont sollicitées dans la période actuelle. Et je trouve qu'il ne faudrait pas que l'arbre du flyboard cache la forêt des forces armées.
On est dans le registre du gadget, quoi, finalement.
Un peu, voilà.
Il se penche maintenant sur un projet de voiture volante. Alors là aussi, on est encore dans le futur, peut-être plus à destination
on finira par faire un Concorde, vous verrez.
De tout le monde. Mais est-ce que là, ça vous fait un peu plus rêver, Antoine Boulet?
Moi, j'adore le cinquième élément. Alors, les voitures volantes, ça me plaît, oui, effectivement. Mais...
Moi, je crois qu'Antoine Boulet est un petit peu jaloux. Il voudrait le même pour Noël. Et comme il ne l'a pas encore reçu...
C'est très possible. Appel à ma maman.
Raconte, bien sûr.
Hélène Pilichowski, un mot encore, peut-être, sur cet exploit de Frankie Zapata. Est-ce que vous l'avez regardé, d'ailleurs
Ah, ben, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'était difficile d'y échapper, hein, quand même. Parce
que c'est ce que je dis. C'est
les chaînes d'info, quand même, s'en sont données à cœur joie. C'est normal. Non, mais moi, ça m'a intrigué beaucoup parce qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler auparavant. Je ne sais pas, moi, ça ne m'avait pas interpellé plus que ça. Et là, franchement, et puis j'ai trouvé que l'homme, pour dire, l'homme était franchement sympathique. C'est-à-dire pas crâneur, pas trop vedette, moins vedette que Greta Thunberg, là, par exemple, pour faire des rapprochements qui sont vraiment douteux, si je peux dire. Mais c'est quelqu'un qui peut susciter l'enthousiasme. Non, franchement. Donc, on en a aussi besoin. Et puis, ça peut faire rêver un peu certains, ceux qui sont amoureux de ce genre d'exploit, bien sûr. Non, et pour l'armée aussi. Non, je trouve que c'est positif. C'est positif dans l'ambiance actuelle.
Et on aura réussi, grâce à vous, à faire une comparaison entre Greta Thunberg et Frankie Zapata.
Voilà.
Et rien que ça, c'est un exploit. Merci à vous trois d'avoir été ce soir dans Les Informés. Hélène Pilichowski, journaliste politique, Antoine Boulet de l'agence de communication Havas et Antoine Colonna de Valeurs Actuelles. Merci à tous les trois.